Quoi que ce soit, ça passe par le 418-971-1021 à Boulevard. Antonin Iaccarini qui prend place pour une dernière fois dans le retour estival, analyste politique. Comment vas-tu, mon ami?
Ça va bien, vous autres?
Bien, ça va bien. Écoute, ça roule, c'est un gros été. On peut pas se plaindre qu'on n'a pas de stock à jaser, mettons.
C'est l'enfer. Puis on est encore sous le bout de notre chaise avec les négociations Canada-États-Unis. La date butoir est demain. Sérieusement, je me disais aujourd'hui, c'est quand même débile, un 31 juillet.
Puis tu dis demain, mais tu sais, c'est... J'imagine que c'est minuit, genre à soir.
Qui sait?
Ouais, c'est
vraiment,
ça.
On surveille Truth, là.
C'est vraiment ça.
Pour vrai, oui.
Toi, ça doit être pas pire, par exemple, pour toi, on en jase hors d'onde, mais tu sais, nous, mettons qu'il n'y a pas d'actualité l'été, là, c'est poche, là, mais on a autre chose sur quoi se rabattre. Toi, analyste politique, il y a des étés plus tranquilles que d'autres, là.
Vraiment. Quand tu dois trouver quelque chose de politique à tous les jours du mois de juillet, ça peut être complexe. Mais tu sais, quand même, cette semaine, j'aimerais dire que j'ai parlé de Katy Perry.
Oui!
J'étais presque chroniqueuse culturelle.
Ça a tellement été gros, là.
C'est l'enfer.
Ça s'est poursuivi là, dans les dernières heures.
Mais là, il était-tu là ou il était pas là au show?
Oh, il était là.
Il était tout là.
Il avait l'air amoureux, là.
Oh, mon
Dieu! Pour vrai, on peut en parler juste 30 secondes?
Ah oui, okay? On va prendre le temps.
Mettons que vous avez une date avec quelqu'un, puis le lendemain, la personne se pointe à votre job avec son enfant, parce qu'il était avec sa fille,
ouais, ben,
puis il vous regarde de même, là.
Ouais.
Comment vous vous sentez avec ça?
Je sais pas comment je le vis.
C'est intense, là. Hey,
ben, j'imagine, c'est elle qui l'a invité, là.
Ben, en même temps, je veux dire... Sa job est publique, elle donne des shows à quelque part. Faut que tu t'attendes à voir à peu près n'importe qui dans un concert. Mais
je veux dire, on vit leur histoire en direct, en public.
C'est fou, rien.
C'est capoté. Ben écoute, je veux pas juger. Là.
Mais je leur souhaite du bonheur. Écoute,
exactement.
Ils seront un beau couple.
Et Justin Trudeau a eu une année 2024
assez
de
chenoute.
On
peut souhaiter du petit bonheur, je pense. Là. Mais c'est cocasse, écoute. Moi, je suis ça avec attention, ça fait le tour des internets. Hein, on dirait que dans ce temps-là... Là...
Mais c'était the talk of the town.
Carrément.
Je veux dire, tout le monde en parlait, même les gens qui suivent la politique, ça les intéresse pas nécessairement vraiment. Ben, tout le monde parlait de Justin Trudeau dans tous les bureaux, dans toutes les maisons.
Machines à café.
Toutes les machines à café.
Ouais. On n'a pas le choix de s'en aller vers du plus plate, mais ça fait partie, j'imagine, de ce qui est analyse politique à un certain point. Puis en même temps, je dis plate, mais je pense que c'est l'occasion peut-être de s'éduquer un peu parce que je lis toutes sortes d'affaires depuis. Trump n'est pas content que le Canada prévoit reconnaître l'État palestinien. J'ai le goût qu'on fasse un peu un récapitulatif 101 aussi, là.
Tu peux annuler tous les autres invités du show.
Finalement, le retour va durer probablement jusqu'à demain matin. Max, t'es-tu prêt? Le gouvernement du Canada qui a annoncé qu'il va reconnaître la Palestine en tant que pays à la prochaine Assemblée générale de l'ONU en septembre. Il faut dire que la grande majorité des pays dans le monde ont déjà dit qu'ils considéraient la Palestine comme un pays. Mais tout récemment, France, Grande-Bretagne et le Canada qui ont fait savoir qu'eux aussi avaient l'intention de reconnaître l'État palestinien. Là, c'est con comme question, mais je l'ai vu passer. Et la Palestine n'est pas déjà un pays?
C'est en fait la définition d'un État. T'sais, le Québec est un État comme tel, mais on a des institutions étatiques, un gouvernement, etc. La Palestine a des institutions également qui sont dans un très mauvais état, il faut le dire. Mm-hmm. Il y a eu un État palestinien plus solide à certaines époques, une autorité palestinienne aussi qui était plus démocratique également. Depuis 2007, c'est le Hamas qui contrôle la Palestine, la bande de Gaza, etc., qui est un mouvement nationaliste, islamiste, armé, qui fait des choses terribles et qui fait souffrir son peuple de manière épouvantable. Donc, le fait hier que, puis avant hier, quand la France a commencé un peu le bal là, pour mettre plus de pression sur Israël, de reconnaître un État palestinien, en fait, c'est un moyen de pression. Et les États-Unis ne seront jamais en accord avec ça. Donc, les États-Unis, c'est l'allié indéfectible d'Israël. Il y a eu toutes sortes de... Puis là, pour vrai, c'est vrai qu'on aurait besoin de 7 heures pour en parler, fait que je ne remonterai pas aux racines de ce conflit-là. Cela dit, l'opposition systématique des États-Unis pour toutes sortes de choses qui concernent la Palestine, c'est vraiment ça qui pèse le plus lourd dans la balance. Le veto des Américains au Conseil de sécurité, notamment, il y a eu des tentatives que la Palestine, par exemple, ait son siège à l'ONU. C'est ça qui a le plus de poids et ça ne changera pas.
Mais on paraît-tu bien là-dedans, mettons?
En fait, c'est que c'est un des enjeux. Le conflit actuel entre le Hamas et Israël, sur lequel, peu importe ce que tu vas dire, tu vas fâcher quelqu'un. C'est tellement polarisant. Puis pour M. Carney, c'est inconfortable. Par exemple, hier, après l'annonce de M. Carney qui a donné son intention de reconnaître l'État palestinien, les conservateurs fédéraux ont lancé un communiqué de presse. Leur position est beaucoup plus claire aux conservateurs. C'est pro-Israël. Présentement, la Palestine, ce sont des islamistes, c'est le djihad, c'est le Hamas. Donc, on ne peut pas récompenser cette gouvernance-là. Donc, c'est une erreur d'après les conservateurs. Mais pour les libéraux, il y a des conflits à l'interne, à l'intérieur même du parti. On peut penser à un des députés pendant longtemps au Parti libéral, Anthony Housefather, qui est un député d'origine juive. Lui, entendre une affaire comme ça, là, qu'on reconnaît l'État de la Palestine...
C'est épouvantable.
Pour lui, c'est terrible. Et ne rien faire pendant qu'on voit qu'il y a un génocide qui est en cours pour une foule de membres du Parti libéral.
Ça, humainement, là.
Mais c'est ça. Puis c'est impossible de ne pas être sensible à ce qui se passe présentement. Mais c'est pour ça que je dis que peu importe la position que tu prends dans cet enjeu-là...
Mais il y a des conditions, par exemple, non?
Oui, absolument. La France, par exemple, a indiqué toutes sortes de conditions. Mais par exemple, les États-Unis... Les conservateurs au Canada, tous ceux qui prennent plus l'argumentaire d'Israël vont dire, ben, premièrement, faire un cessez-le-feu face à des terroristes, parce que le Hamas, on les traite de terroristes dans ce cas-là, ben, c'est comme de leur laisser la voie libre pour continuer de faire leurs activités terroristes puis leur djihad. On ne peut pas faire ça, Israël doit se protéger, etc. Et c'est comme aussi si on récompensait la terreur, parce qu'il faut quand même se rappeler que ce conflit-là qui a cours en ce moment, puis il y en a eu plein d'autres, là, des conflits au fil des ans, puis ça n'a jamais vraiment arrêté non plus. Mais ça a commencé avec quoi? Avec une terrible prise d'otage, 7 octobre 2023. Donc, il y a comme un enjeu de ne pas récompenser ou de ne pas légitimer le Hamas.
Hier, on était le 30 juillet, à 2 jours de la date limite de Trump pour s'entendre sur un accord commercial. Qu'est-ce qui pressait pour que hier, on colle la conférence de presse, on fasse l'annonce, en sachant très bien que ça ferait pas l'affaire des États-Unis?
C'est comme devenu une
priorité.
Pourquoi tu
fais ça?
Hein?
Ben, au-delà d'être
le timing est vraiment bizarre.
Au-delà d'être une priorité qui est weird, c'est que tu le sais que en faisant ça, tu vas fâcher Trump.
Mm-hmm. Ben, cela dit, Trump trouve toujours des raisons pour être fâché ou pour tous les noms.
Il est capable.
Ça, c'est la première des choses. C'est ça, si je me mets dans la peau, par exemple, de quelqu'un qui. Est vraiment pro-Palestine puis qui manifeste à toutes les semaines parce que là, tu sais, on voit que ça envahit aussi toutes sortes de pans de notre société. Là, ce conflit-là est partout à travers le monde. Je voyais juste Fierté Montréal en ce moment qui sont pris dans une histoire de fou encore parce que là, quelle position ils vont prendre? Il faut donc qu'ils prennent position.
Le Safia Nolin va plus le
faire. Safia Nolin a vu un drapeau d'Israël. Fait que là, c'est bien terrible. Donc, tout le monde est là-dedans en ce moment. Donc, quelqu'un qui serait là-dedans et qui serait très, très pro-Palestine te dirait ce qui presse, c'est qu'il y a un génocide en ce moment et que c'est bien épouvantable.
Ouais.
OK. Mais maintenant, de l'autre côté, si on regarde politiquement, moi aussi, je me suis dit, est-ce que ça aurait pu attendre après la négociation avec les États-Unis?
Surtout que hier, on n'a pas annoncé qu'on l'appuyait. On a annoncé qu'on allait l'appuyer en septembre parce que c'est là qu'il faut que la décision soit prise.
Clairement, ça aurait pu attendre.
Ben oui.
Mais Mankoyne était quand même sous pression. Hier aussi, il y a eu une lettre 200 anciens diplomates canadiens qui pressaient le Canada d'emboîter le pas sur la France. Il y a quand même un mouvement dans les pays du G7, sauf les États-Unis, bien sûr, pour faire quelque chose parce que la situation humanitaire, notamment dans les derniers jours, là, elle est toujours très, très grave, mais elle était particulièrement aiguë dans les derniers jours, dernières semaines. Donc, c'est sûr que M. Carney était sous pression d'agir, mais moi aussi, j'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, à 2 jours de la date butoir, c'est comme provoquer. Ouais. Ben, c'est provoquer M. Trump de manière vraiment...
Il se provoque à pas grand-chose en partant, là. Fait que...
Non, on s'entend. Puis c'est ça, tu sais, tu mets ça dans la balance, puis il n'y a pas de réponse simple, hein, ni avec les négociations avec les États-Unis, ni dans le conflit entre la Hamas et Israël en ce moment. Donc, c'est très complexe, puis j'ai l'impression qu'il doit y avoir des gens qui sont quand même frustrés aussi à l'interne de ça, puis de voir la réaction de Donald Trump, de se dire, là, mais est-ce qu'on vient de se tirer dans le pied?
Ouais.
Puis je dis pas, en passant, parce que encore une fois, on est sensible à ce qui se passe à Gaza. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui peut être insensible face aux images qu'on voit à tous les jours. Cela dit, c'est pas comme si ce qu'il avait fait hier, M. Carney...
Ça sauve pas de vie.
C'est ça. À court terme, qu'est-ce que ça va changer? Oui, évidemment, si le monde entier se mobilise puis qu'il fait bouger les choses puis qu'il y a des négociations pour une solution à deux États, on s'entend qu'on se sent très, très loin en ce moment d'une situation, d'une solution à deux États dans la région au Proche-Orient. Je veux dire, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, est beaucoup plus dans une rhétorique d'élimination là, de la Palestine en ce moment. Là. Si vous voyez un petit peu, lisez sur les discussions, le niveau de débat dans leur parlement à l'heure actuelle, on n'est pas du tout, on se sent pas du tout proche de négociations, loin de là. Au contraire, on parle d'annexer la bande de Gaza et de coloniser la bande de Gaza.
C'est les conditions émises par M. Carney, là, la tenue d'élections générales en 2026, la démilitarisation de l'autorité palestinienne et l'exclusion du Hamas de la gouvernance.
Bien, c'est ça. Ça, c'est l'autre élément. C'est que ça n'arrivera pas. Okay, le Hamas ne va pas lâcher le morceau. Ils font un djihad. Il faut comprendre que c'est une guerre qui est religieuse maintenant et qu'ils sont prêts à sacrifier tout et même leur peuple. Et ils le font d'ailleurs. Donc,
fait que ça veut-tu dire qu'au final, c'est un peu n'importe quoi? L'appui du Canada est un peu une fausseté au final? Là?
Non, ça augmente la pression quand même internationale sur Israël. Tu sais, veut pas la mobilisation qu'il y a eu dans les derniers jours. Parce que... Puis il y a toutes sortes de choses. On reçoit de la propagande de tous les côtés aussi. Là. C'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe sur le terrain. Mais il y avait notamment un enjeu de famine. Là. Il y avait des enfants qui mouraient de faim. Il y a eu quand même un mouvement international. Puis on a eu l'impression qu'Israël avait quand même donner un peu plus de lousse pour que l'aide alimentaire puisse arriver. Donc, ça fait quand même une petite différence. Est-ce que ça va régler tout du jour au lendemain? La réponse est non, mais en même temps, il n'y a jamais eu de solution simple avec ce conflit-là qui dure depuis des décennies, comme on sait. Et le Hamas, il faut le dire, là, puis j'insiste là-dessus, c'est pas un gouvernement normal. On peut pas négocier avec un mouvement comme celui-là de manière normale. Il n'y a pas eu d'élection en Palestine depuis 2007. Donc, ils ont pris le pouvoir en 2007 et depuis ce temps-là, il n'y a pas de vie démocratique dans la région.
Je te pose une question qui vient d'entrer puis je pense que ça va un peu clore cette portion-là du sujet. Est-ce que c'est possible que ce soit une stratégie, que les négos aillent nulle part puis que Carney ne voulait pas être blâmé, mettons?
Bien, c'est possible. Puis de toute façon, on n'a pas l'impression que ça va très bien, ces négociations-là. Là. Moi, je vais vous faire une petite prédiction assez facile aujourd'hui, puisqu'on est rendu le 31, mais ça s'enligne comme ça. Je pense pas qu'on va avoir d'entente avant demain. Là, on voit que le Mexique a eu un délai supplémentaire. Le secrétaire au commerce américain, M. Lotnick, a dit qu'il n'y aurait pas de délai supplémentaire, puis que le 1er août, c'était le 1er août. Mais honnêtement, est-ce qu'il pourrait marcher sur la peinture? Oui, tout est possible avec Trump, mais moi, je pense qu'on s'en va vers des nouveaux tarifs. Peut-être pas 35 % peut-être pas sur tout, mais à partir de demain, je serais très surprise qu'on nous annonce une entente et je serais surprise qu'il n'y ait aucun tarif. M. Trump est tanné de se faire traiter de taco.
Il le fait pareil avec le Mexique. Là, mais...
Il le fait pareil avec le Mexique, mais j'ai pas l'impression qu'on va s'en sauver cette fois-ci. Puis, tu sais, dans tout ce qu'on ne sait pas sur ces négociations-là, il y a quand même un accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Puis les tarifs qui ont été mis, qui ont été mis depuis le retour de Trump, il y a un paquet d'exceptions tout le temps. On ne sait pas comment cette entente-là va interagir avec la CEOM, notre accord de libre-échange. Finalement, ça pourrait toucher très, très peu de produits s'il y avait des nouveaux tarifs. Mais je pense que politiquement, Trump va vouloir mettre des tarifs. Puis je suis très, très... pessimiste sur le fait d'avoir une entente demain.
Revenons un peu plus près de chez nous. La partielle dans Arthabaska, Éric Duhaime puis son pamphlet, ça fait pas mal jaser dans les dernières heures.
Tout le monde appuie Éric Duhaime, même Paul Saint-Pierre Plamondon.
Ah, écoute, si tu regardes ce pamphlet-là, il y a bien du monde. Puis c'est drôle parce que là, il y a quand même il y en a qui ont décidé de mettre un peu leur... Je pense à Alain Reyes qui a décidé de mettre son pied à terre sur ses réseaux sociaux pour dire, OK, tu sais, depuis quelques jours, il y a plusieurs citoyens qui m'interpellent à la suite de deux interventions publiques du candidat du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. T'sais, je vous lis ça rapidement, mais il dit, bon, d'abord, une publication sur les réseaux sociaux faisant référence à une chronique que j'ai livrée à l'émission Tout un matin le 22 juillet dernier, et ensuite, un dépliant distribué dans les résidences de la circonscription d'Arthabaska dans le cadre de l'élection partielle en cours. Dans les deux cas, M. Duhaime et son équipe ont choisi d'utiliser des extraits de mes chroniques, un peu comme le font certains artistes en reprenant des citations positives et des critiques culturelles pour promouvoir leur spectacle. Qu'on me comprenne bien, ça signifie pas que je soutiens le candidat, pas plus que le chroniqueur culturel soutient l'artiste. Ça signifie simplement que j'ai exprimé à un moment précis une analyse ou une observation politique. Mais l'affaire, c'est que ce pamphlet-là, Antonine, ça donne vraiment l'impression que t'en as une couple qui sont derrière Éric Duhaime à 100% sur celle-là.
Même la citation de Yasmine Abdel-Fadel de dire que Duhaime viendrait changer le paysage, mais de le virer comme si c'était positif. C'est un fait. Duhaime viendrait changer le paysage à l'Assemblée nationale, mais ça veut pas dire que c'est positif puis que ça mérite de se retrouver sur un pamphlet comme si elle appuyait Duhaime.
C'est de la belle manipulation, mettons. C'est une stratégie qui est fréquente, parce que là, j'ai l'impression que parce que c'est Éric Duhaime, ça fait beaucoup jaser. Là.
Oui, puis c'est une partielle, puis là, on est toutes, on a juste ça à se mettre un peu sous la dent en politique québécoise cet été. Éric Duhaime, c'est pas le premier à faire ça, en passant. Ça arrive régulièrement. Il y a des partis qui vont prendre un extrait d'une chronique, qui vont faire une image web avec, mettre ça sur les médias sociaux. J'ai vu ça dans presque tous les partis. Il y a personne, en fait, il y a aucun chroniqueur, ni journaliste, ni animateur de radio qui aime ça se faire faire ça en passant. Mmh. C'est-à-dire, on prend ce que tu dis, on le met sur un outil de communication partisan avec un logo d'un parti politique.
Hors contexte.
Hors contexte, parce que, par exemple, les phrases qu'il y a sur le pamphlet d'Éric Duhaime, peut-être que c'était suivi de « mais... » Jamais je ne voterai pour le Parti conservateur de ma vie. T'sais, on le sait
il
pas.
Il n'est pas là, ce bout-là, mettons.
C'est ça. Il y a du cherry-picking sur les mots qui sont choisis. Puis, tu sais, en passant, tu sais, moi, je fais de la chronique politique régulièrement. J'aime autant pas ça me faire reprendre à des fins politiques que de te faire dire, oh, ben, ton jupon dépasse, t'es pas neutre. Mm-hmm. Nanana. Tu sais, c'est le jeu, là, à un moment donné, de dire à un moment donné quelque chose de positif sur quelqu'un. Peut-être que demain, tu vas dire quelque chose de négatif. On essaie d'être toujours équilibré. Ça veut pas dire qu'on n'a pas des couleurs politiques. Puis évidemment des valeurs, mais d'être instrumentalisé à des fins de communication politique, il n'y a vraiment pas un chroniqueur qui aime ça. Puis Alain Raïs a décidé de réagir parce qu'il y a beaucoup de monde qui disait « ben t'appuies Éric Duhaime ». Puis il était là « non, là, c'est pas ça que j'ai dit exactement ».
Puis le pire, c'est que c'est pas cave, là. Il est pas cave, Éric Duhaime. C'est intelligent dans la mesure où quelqu'un, mettons, qui suit à moitié ça, qui reçoit ce pamphlet-là, là, tu comprends, chez eux, puis ça ajoute une crédibilité, en fait, à sa candidature.
Et en plus, il faut le dire, Alain Raïs, là, c'est un buzzword là, dans la région. Puis Éric Duhaime l'a utilisé. Mais il y avait plus qu'une personne aussi sur le pamphlet, puis notamment Paul-Saint-Pierre Plamondon, comme tu disais, Max, tantôt. Cela dit, c'est pas le seul à avoir fait ça. Tu sais, j'ai déjà vu d'autres exemples de d'autres partis. Il n'y a rien inventé. Ce n'est pas interdit de le faire. C'est limite. Mais je trouve que le backlash est un... faire en sorte que ça ne vaut pas la peine. C'est maintenant, on parle surtout de la réaction d'Alain Raïs qui a l'air de se dissocier carrément d'Éric Duhaime. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux dans ta campagne? Pas nécessairement. Cela dit, je trouve que... Tu sais, je regarde le pamphlet, c'est pas si pire. Il n'est pas écrit « Ils appuient Éric Duhaime ».
Non, non.
Tu sais, c'est comme sur la ligne... Puis...
Mais il savait ce qu'il faisait. Lui qui a déjà été dans les médias aussi.
T'sais. Et en passant, j'ai écouté le débat des candidats d'Arthabasca lundi dans une radio locale à Victoriaville. Puis la candidate libérale aussi a solidement name-droppé Alain Raïs, puis de manière assez maladroite d'ailleurs, parce qu'il parlait d'immigration, puis elle dit « Des immigrants, c'est des belles histoires. Regardez ici, là, un immigrant qui a eu une belle histoire, Alain Raïs, c'est un immigrant égyptien. » Alain Raïs, c'est effectivement d'origine égyptienne, mais c'est ses parents qui ont immigré. Tu sais, c'est pas un immigrant
c'est
non
pas
plus.
Tout à fait ça.
Mais elle voulait plugger le nom d'Alain Raïs parce que c'est payant dans cette élection-là. Puis il est apprécié des gens d'à peu près tous les partis. Donc oui, il savait ce qu'il faisait.
En passant, l'élection 11 août hein, dans la circonscription d'Arthabasca fait qu'on aura en masse le temps de s'en rejaser.
Ben, puis justement, je suis curieux de t'entendre. Jusqu'à la date, tu penses que ça s'en va où? Parce que depuis le départ, on parle d'une course à deux entre le Parti québécois et Éric Duhaime. Là, il y a eu la grosse controverse au début avec Boissonneau, puis là, son passé. Puis là, depuis, on dirait qu'on n'a pas de temps à reparler. Il y en a qui le ramènent un peu des fois.
Donc, c'est libéré de ça, je pense,
Là, t'as Duhaime qui a cette petite controverse-là. Je pense pas qu'il va perdre bien des votes à cause de ça. Mais on dirait que j'ai tellement de la misère à... Je flippe un 25 cents.
Même affaire. Honnêtement, là, je suis pas prête à faire une gageure avec de l'argent. C'est que d'un côté, j'ai l'impression qu'Éric Duhaime a réussi quand même à créer un mouvement de... Il faut faire entrer un candidat, pas un candidat, mais un député conservateur à l'Assemblée nationale. Puis ce narratif-là a de l'écho. La preuve, c'est...
Je vais juste écrire ça. Il faut faire entrer un conservateur à l'Assemblée juste pour qu'il puisse. Je vais l'envoyer à Éric Duhaime.
Exact, pour l'aider à faire ses outils de communication pour la suite de la campagne. Puis j'allais dire, justement, même Paul-Saint-Pierre Plamondon, même des gens de d'autres partis le disent que c'est pas normal qu'il y ait un parti qui a 15 % des intentions de vote, qui n'ait pas de député, blablabla. Cela dit, Éric Duhaime... Il fait une campagne un peu nationale, avec des idées générales. C'est ses idées, puis c'est un peu « moi, je suis le chef du Parti conservateur, et moi, je veux rentrer ».
Il s'en fout
de
Arthabasca, lui.
Ben, c'est ça. Mais en même temps, ses idées retrouvent une espèce de terreau fertile dans la région, notamment la section plus l'érable. Parce qu'à Victoriaville, c'est un petit peu plus, il y a plus de résistance à des idées ou à un type de politicien comme Éric Duhaime. Ils en sont très conscients parce que c'est un personnage qui est aussi polarisant. Donc, il y a des gens qui l'aiment, mais il y a des gens qui le détestent. Alors que Alex Boissonneau, est-ce qu'il y a des gens qui le détestent? Je ne pense pas. Donc, il y a ça aussi qui ajoute un peu à mon doute de c'est qui va l'emporter, parce qu'Alex Boissonneau fait une campagne vraiment plus locale. Il parle des gens d'Arthabasca beaucoup.
C'est un vrai gars de là aussi.
Oui, il habite à Québec aussi, comme Éric Duhaime. Ces deux gars de Québec qui sont en train de se présenter, mais il a fait des propositions très, très spécifiques, très, très locales. Je trouve que ça lui faisait une belle boîte à outils quand j'écoutais le débat lundi, alors qu'Éric Duhaime était comme le prix de l'essence. C'était des affaires qui sont plus, disons, globales.
Puis qu'à la base aussi, on dirait que... Puis c'est la vue extérieure, là. Je ne suis pas quelqu'un d'Arthabasca, puis je ne sais pas comment eux le voient, mais on dirait que Duhaime appuie tellement sur le clou de « faut faire rentrer un conservateur » que tu dis... Lui, il veut juste nous, en guillemets, utiliser pour rentrer.
Donc, il y a ce risque-là. Ouais, c'est ça. Qu'il y a des gens qui disent, ben là, dude, tu sais, moi, je vais voter pour mes valeurs, puis j'ai pas apporté le fait qu'il y a 15% des intentions de vote pour le PCQ.
J'en ai rien à cirer, moi. Là.
Exactement. Et il pourrait avoir un mouvement un peu... pour qui faut je vote? En fait, un mouvement de vote stratégique pour voter contre Éric Duhaime, parce qu'il y a des gens qui l'aiment vraiment pas, puis qui pourraient dire « ben moi, je suis pas souverainiste, je suis pas péquiste », mais là, ça a l'air que c'est Alex Boissonneau qui a une chance de battre Éric Duhaime, ben il pourrait avoir un rassemblement autour du PQ pour ça, parce que le PQ, il faut le dire, le Arthabasca, c'est pas un comté là, qui était si fertile que ça au PQ. Donc, c'est honnêtement très, très... c'est une boîte à surprise, cette élection-là.
As-tu hâte de voir le pourcentage de la CAQ, du candidat de la CAQ?
Ouais.
Tu penses que ça va-tu être un 2-3%? Va-tu quand même se maintenir un petit peu plus haut que ça?
Moi, je pense qu'il va y avoir quelques points de plus que le 3%, mais honnêtement, c'est vraiment difficile pour la CAQ. Les élections partielles, en plus, c'est vraiment...
On passe des messages,
puis genre, encore une fois, je reviens au débat de lundi, mais le candidat, il est très bon. Okay? C'est un bon candidat local, bien intégré dans la région, qui a un beau CV, qui se présente très bien. Il était vraiment sur la défensive à défendre, finalement, les politiques du gouvernement, à défendre les échecs économiques du gouvernement, puis... Honnêtement, je me disais, il va peut-être être capable d'aller chercher quelques points supplémentaires pour sa qualité.
Mais c'est pas une belle position d'être un candidat d'un gouvernement qui est déjà en place, j'ai l'impression,
ah,
en partant. Antonine, avant de te laisser aller, le temps file, on n'a pas le choix de parler de Dee Natural, Benoît Bourdeau, en politique, qui veut se présenter comme candidat dans le district Robert Giffard pour Respect citoyen. Je veux t'entendre, en fait, sur la crédibilité reliée à ça.
Bien, premièrement, je pense que... En fait, j'invite n'importe qui a le goût de s'impliquer à se présenter en politique. Fait que jamais je vais dire « cette personne-là n'a pas les qualités pour participer à une campagne électorale ». Et je salue l'engagement parce qu'en plus, c'est un enjeu de trouver des candidats pour les postes municipaux.
Oui.
Il y a beaucoup de postes qui sont élus par acclamation et même des postes pour lesquels il n'y aura pas de candidat probablement à la campagne municipale. Donc,
moi, ce qui m'intéresse,
bravo.
C'est la vision des gens, en fait, tu sais, je trouve ça cocasse.
Mais que ce soit Dee Natural, pour moi, je m'en fous. Mais là, déjà, il y a des tweets qui ont fait surface, puis qu'il y a des opinions. Je pense que c'est plus ça. Je pense que le manque de crédibilité va beaucoup plus venir de là que le fait que moi, que tu sois un ancien rappeur, ça ne fait pas grand-chose là, si t'amènes des idées cool. Là.
Non, c'est juste cocasse, puis moi, ça me rappelle toutes sortes de souvenirs de Dolora Clip et tout ça. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Pourquoi il s'appelle Dee Natural? Son nom, c'est Benoît Bourdeau. Pourquoi il ne s'appelle pas Bee Natural? Moi, c'est ma question. Vous allez l'inviter.
C'est une grosse bombe,
vous allez
lui
demander. OK? Moi, ça me trouble. Okay?
Je prends l'engagement de m'arranger pour que ça arrive.
Qu'est-ce que c'est ça? Moi, c'est ça. Là. C'est cette incohérence-là en politique là, qui me choque énormément. Donc, il va devoir me répondre. Non, mais sérieusement, ce parti-là, Respect citoyen, je trouve que c'est un candidat avec ses opinions et ses anciens tweets qui est relativement à l'image du parti qui va représenter.
Tirez ça ce que vous voulez.
Oui, c'est ça, positif, négatif, à vous de
elle
voir.
Elle
n'a
rien
là.
Dit.
Moi, je vois de la cohérence dans tout ça.
Voilà, hey, c'est bien dit ça.
Ça va être cité d'un pamphlet. De la cohérence dans
je
tout ça.
Je n'appuie pas Respect citoyen.
Ça
ne sera
pas sur le pamphlet, ça.
Okay. Antonine Carigny, analyste politique, merci d'avoir été avec nous cet été. C'est un grand plaisir. Puis évidemment, tu vas faire partie de la prochaine saison de Boulevard, que ce soit dans Marceau le midi, que ce soit avec nous dans l'open mic, dans Gravel dans le retour qui revient lundi en passant dès 14h, Denis et Véro qui seront de retour dans la programmation régulière qui reprend de façon assez graduelle. Antonine, salut!
À bientôt.
À bientôt. Vous êtes dans le retour de Boulevard. On est là jusqu'à 18h. Dans les prochaines minutes, Paul Lévesque se joint à nous pour l'heure de 16.